classique. Si vous avez des petits là qui tiennent pas en place, n'hésitez pas à aller voir Sarah ou Mathieu et peuvent avoir un temps avec eux, les accompagner peut-être en bas pour se défouler un peu si besoin. Mais prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui est véritable, qui a été mise par écrit il y a des milliers d'années, mais qui est toujours d'actualité parce que c'est son Saint-Esprit qui l'a inspirée à travers des hommes et des femmes. Et Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu veux encore nous parler à travers elle. Dispose nos cœurs à nous mettre à ton écoute. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de partager avec vous un récit qu'on trouve dans le livre des Actes et qui se déroule au tout début de l'histoire de l'Église. Peut-être 15 ou 20 ans seulement après que Jésus soit mort, ressuscité et monté au ciel. Et les premiers chrétiens à cette époque-là ont déjà commencé à parcourir le monde entier, le monde de leur époque en tout cas, qui était connu à l'époque, pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus, tellement ça les a bouleversés, cette venue de Jésus-Christ, qui sont déjà en train de voyager partout. Et ce texte des Actes au chapitre 16 nous parle d'un de ces messagers qui a marqué l'histoire de l'Église, qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul, et accompagné d'un certain Silas et d'autres chrétiens. Ils ont voyagé notamment en Asie mineure, et puis c'est la Turquie actuelle, et puis jusqu'au nord de la Grèce, ils venaient de la Syrie actuelle. Et ils arrivent à Philippe qui est une ville de Macédoine, qui est tout au nord de la Grèce actuelle. Et c'est Paul et Silas, ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs, Paul et Silas, merci, qui ont pris l'habitude, c'était leur habitude d'aller d'abord dans les maisons de prière des Juifs, les synagogues, dans chaque ville où ils allaient. Et c'est là que le texte arrive, donc on va lire dans Actes 16, au verset 16. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête « Ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils viennent vous annoncer comment être sauvés !» Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme !» À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leurs espoirs de gain s'étaient évanouis, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. » La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements, ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups, on les jeta en prison, et le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces. « Arrête ! Ne te fais pas de mal ! Nous sommes tous là !» Le gardien demanda des torches. Se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé. Il en est de même pour toi et pour tous les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui et lava de leurs blessures. Il fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Un récit qui nous raconte comment un gardien de prison et toute sa famille vont se mettre à croire en Jésus-Christ et se faire baptiser. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte ce matin. Alors, ce n'est pas tout à fait un policier ni un soldat, mais c'est quand même quelqu'un qui est voilà, plus ou moins dans les forces de l'ordre. Je me suis dit que ça résonnait un peu avec les baptêmes d'aujourd'hui. Et ce récit, je crois, nous parle surtout de liberté. Dans ce récit, il y a tout d'abord cette femme qui est mentionnée, doublement asservie par une première fois par un esprit mauvais qui lui fait dire des choses malgré sa volonté, et asservie une deuxième fois par des maîtres, l'esclavage était présent, très présent dans la société à l'époque, des maîtres qui l'obligent à pratiquer la voyance pour pouvoir gagner de l'argent pour eux. Et au nom de Jésus-Christ, cette femme va être doublement libérée de cet emprisonnement. Une simple parole, on voit que notre Seigneur Jésus peut délivrer ceux qui sont emprisonnés par des esprits mauvais qui les poussent à agir contre leur propre volonté. Et c'est une réalité que de nombreuses personnes ont expérimentée, dont beaucoup témoignent. Mais j'aimerais surtout m'arrêter aujourd'hui sur la deuxième libération dont nous parle le texte, et je ne parle pas de celle de Paul et Silas, mais celle du gardien de prison. Gardien de prison, je crois, a vécu une libération. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux détails du texte qu'on vient de lire. Mais clairement, ce gardien de prison, il a un problème dans la façon dont il considère son travail. Premièrement, rappelez-vous, les supérieurs lui disent « Surveille bien Paul et Silas, ces deux prisonniers. » Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va les mettre dans la cellule la plus reculée de la prison, et puis il va même mettre des bois et les attacher avec, avec des chaînes et voilà. On pourrait se dire, voilà, quand même, rappelez-vous, Paul et Silas, ce n'est pas des dangereux criminels, ce sont des prédicateurs qui dérangeaient un petit peu certains. Et en plus, ils viennent lourdement d'être battus à coups de bâton. On nous dit qu'ils ont des plaies, qui sont ensanglantées a priori. Ils ne devaient pas être en grande forme. Alors honnêtement, prendre de telles précautions pour les enfermer, je ne sais pas, mais je trouve que c'est un peu de l'excès de zèle. Mais là où on voit que le gardien il a clairement un problème, c'est quand on considère sa réaction après le tremblement de terre. Un tremblement de terre, les portes de la prison bougent, s'ouvrent, et le gardien voit, il se réveille, et après c'est probablement un peu endormi, il voit que les portes sont ouvertes, et d'emblée, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se suicider, pour sauver son honneur probablement, sans même vérifier que les prisonniers, s'ils sont là ou pas, s'ils sont bien échappés ou pas. On peut penser que cette attitude est quand même, quelque part, relève un problème plus profond. Est-ce que peut-être le travail serait sa seule raison de vivre? Ou est-ce que c'est son honneur ou sa réussite qui aurait plus d'importance que toute autre chose? Lui qui a une famille, nous dit le texte aussi, qui serait prêt à se donner la mort sur un coup de tête. C'est comme si le gardien de prison était lui-même prisonnier. Prisonnier peut-être de ses responsabilités, de ses angoisses, peut-être de ses pensées mortifères. Peut-être que certains parmi nous se sentent un peu comme ce gardien de prison, prisonnier intérieurement. La liberté, c'est quelque chose dont on a tous soif. En tant qu'être humain, c'est une aspiration profonde, une aspiration légitime. Des peuples opprimés se révoltent pour la liberté. Et je crois qu'en comparaison avec d'autres pays du monde, on a quand même la chance de vivre dans un pays où on est relativement libre. Et pourtant, on n'arrive pas forcément à expérimenter la joie que devrait produire cette liberté. Comment se fait-il que malgré une liberté toujours plus grande, nous soyons un peu les champions de la dépression aussi dans notre pays? Comment se fait-il que dans un pays libre, des hommes et des femmes se suicident encore en espérant être délivré d'un mal qui les tient prisonniers? La Bible identifie ce mal-être comme une forme d'esclavage, l'esclavage du péché et de ses conséquences sur nos vies. Malgré notre prétention en tant qu'être humain à vivre libre, nous savons que tout être humain lutte avec une attitude qui s'est profondément mauvaise. Ça peut être une forme de dépendance, ça peut être des pulsions incontrôlables, ça peut être des actes destructeurs qu'on sait mauvais pour soi ou pour ceux que l'on aime. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Aucun être humain n'est vraiment libre de ne pas faire le mal. Et nous savons que face à la justice parfaite de Dieu, comme l'a très bien évoqué tout à l'heure Cécile, on n'est pas sans reproche. Lui qui voit tout, qui sait tout de nous, il ne peut pas laisser impuni le mal que nous faisons à nous et aux autres. Et bien que nous prétendons libres, en fait, nous sommes souvent prisonniers, condamnés. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Revenons à notre récit. Le gardien, on voit, il est sur le point de se suicider. Et là, depuis le cachot le plus reculé, il y a une voix qui arrive, un prisonnier du nom de Paul, qui va lui sauver deux fois la vie. Une première fois, il va crier pour lui éviter de se suicider. Hé, ne fais pas ça ! Ouvre les yeux ! Allume la lumière ! Nous sommes toujours là ! Personne ne s'est échappé. Et ce cri pour sauver ce gardien, ça provient d'un prisonnier, Paul, qui quelque part, on a l'impression, lui, il est prisonnier au fond de la cachot le plus reculé avec des chaînes, et pourtant, ce prisonnier-là a l'air d'être libre, d'expérimenter la véritable liberté. Rappelez-vous quand même, Paul et Silas ont été accusés faussement par des maîtres, parce qu'ils ont perdu leurs gains, alors ils ont accusé de choses qui sont fausses. Ils ont été humiliés, ils ont été roués de coups, ils ont été jetés en prison sans véritable procès. Et là, attachés au fond d'un sordide cachot, couverts de plaies, en pleine nuit, voilà que le texte nous dit que ces hommes priaient et chantaient des louanges à Dieu. Je ne sais pas si on arrive à se mettre à leur place, mais franchement, c'est quand même étonnant. Et puis, lorsqu'il va y avoir ce tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent, les chaînes se tombent a priori. Le gardien s'apprête à se suicider. Ils auraient pu se dire, ah, vite, on en profite là. On profite de la situation, on file. Non, au contraire, il rassure le gardien. Il dit, oh, on est toujours là. Est-ce que ça ne montre pas que ces deux prisonniers, au fond d'eux, sont réellement libres? Au plus profond d'eux-mêmes. Est-ce que ce n'est pas ça la vraie liberté? Une liberté intérieure qui ne peut pas être emprisonnée par des murs, par des chaînes, une liberté intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, des injustices subies ou de l'attitude des autres. Et c'est peut-être l'étonnante liberté de ces deux prisonniers qui va pousser le gardien à leur poser cette question cruciale. Que dois-je faire pour être sauvé? Quand le gardien pose cette question, il risque plus grand-chose, en tout cas au niveau de son travail. Il a demandé la lumière, il a réalisé que personne ne s'était échappé. Voilà. Et pourtant, il demande cela. Que dois-je faire pour être sauvé? C'est une lumière plus profonde, plus puissante qu'il semble avoir atteint. Il voit qu'il a un sérieux problème avec lui-même. Que dois-je faire pour être sauvé? Malgré le fait qu'il ne risque absolument plus de perdre ses prisonniers, son travail ou son honneur, hein, tout est sauf, mais il sait pourtant qu'il a besoin d'être sauvé d'un mal plus grand. Il a besoin d'une délivrance plus salutaire. Il a besoin de vivre cette vraie liberté qu'il a sûrement vue chez Paul et Silas. Que dois-je faire pour être sauvé? L'apôtre Paul va lui indiquer le seul moyen qui lui permettra de vivre ce salut plus profond, plus essentiel, le seul moyen d'être libre du péché qui le tient esclave. Et écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul, qu'on a lu tout à l'heure. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La Bible nous explique comment Dieu est venu lui-même nous offrir le salut, la véritable liberté. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, a mis les pieds sur cette terre, il s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ, et volontairement, par amour pour nous, Il a choisi de prendre sur lui notre condamnation. Lui, le seul être humain parfait à n'avoir jamais péché, a accepté de mourir la plus atroce des morts possibles de l'époque, la mort par crucifixion, une horrible torture. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, fait homme, est venu payer de sa propre vie notre condamnation. Nous méritions la mort éternelle à cause de notre désobéissance, de notre rejet du Dieu vivant. Et grâce à Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle auprès du Dieu vivant, de façon totalement imméritée, sans qu'on ait rien à faire pour cela, sinon accepter, recevoir cette grâce, ce cadeau que Dieu nous fait. Et ça, c'est le secret de la véritable liberté. Cette liberté qui fait que deux hommes injustement maltraités peuvent encore chanter les louanges à Dieu. Parce que ceux qui ont compris l'amour, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ savent que leur salut, leur bonheur ne dépend plus d'eux-mêmes, ne dépend plus des circonstances. Ils reposent sur le cadeau incroyable que Dieu nous a fait. Jésus lui-même a dit, quand il est venu, qu'il était venu pour proclamer aux captifs la liberté, apporter la délivrance aux opprimés. Et en Jésus-Christ, nous découvrons que ce bonheur ne dépend pas des circonstances, de notre capacité à bien agir, de notre réussite personnelle. Non, le bonheur, c'est un don de Dieu qui nous est offert, qui nous offre avec joie et qu'on accepte avec joie, avec reconnaissance. Et quand on accepte ce don de Dieu offert en Jésus-Christ, on est libre, libre de toute pression, de tout ce qui peut nous empêcher de nous réjouir. Là, on devrait l'être. Peu importe les circonstances extérieures, peu importe qu'ils soient injustement emprisonnés à cause de leur foi, ceux qui ont cru en Jésus-Christ savent au plus profond d'eux-mêmes qu'ils sont libres. Et c'est de ce salut dont ont témoigné ce matin les baptisés, et des témoignages comme les leurs, il y en a des millions, peut-être des milliards avec les 2000 ans d'histoire de l'Église. La foi en Jésus-Christ rend libre. Libre de la peur de la mort, libre des inquiétudes fausses, libre de la pression liée à la réussite, libre de l'influence des puissances occultes, libre du désespoir, libre du péché. Regardez encore une fois notre récit. Rappelez-vous ce qui se passe à la fin du texte qu'on a lu. On voit bien que cette foi que va saisir ce gardien de prison va produire un effet chez lui, immédiatement. Rappelez-vous, il allait se suicider seulement parce qu'il pensait que, sans vérifier, que des prisonniers s'étaient échappés suite à un tremblement de terre. Mais qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il va lui-même faire sortir des prisonniers de prison, Paul et Silas. Il va les inviter chez lui, il va leur présenter sa famille, il va nettoyer leurs plaies et il va leur offrir un repas. Honnêtement, une telle attitude vis-à-vis de sa hiérarchie aurait pu lui attirer bien plus d'ennuis que d'avoir laissé s'échapper des prisonniers suite à un tremblement de terre. Mais les priorités de sa vie ne sont plus les mêmes. Sa vie n'a plus le même sens. Désormais, il est libre. Il est vraiment libre. Et désormais, comme nous dit le texte, il peut se réjouir avec toute sa famille. Non pas parce qu'il fait bien son boulot, et parce qu'il a cru en Jésus-Christ, ce que dit le texte. Et ça, ça change tout. Et non seulement ça transforme sa vie, mais ça nous affecte même toute sa famille, puisque le texte dit que toute sa famille se met aussi à croire en Jésus-Christ, et que toute la famille est baptisée, un peu comme aujourd'hui, voilà, on a toute une famille qui s'est fait baptiser, trois frères aussi. Ouais, ça a de l'impact. Qu'on se met à croire en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Cette parole, elle est pour chacun d'entre nous ce matin. Est-ce que tu veux la saisir? Est-ce que tu veux saisir la liberté que le Seigneur, seul vrai Dieu, veut t'offrir? Et si c'est le cas, il suffit de lui dire. Le Seigneur est là en ce moment et comme à chaque instant de nos vies, il connaît tout de nous, il sait tout de nous. Notre Créateur, il connaît même nos pensées les plus profondes. Et dire sa foi en Jésus-Christ, c'est simple, on peut lui parler comme on lui parle, comme on parle à n'importe qui et il nous entend. Et c'est simple, on peut le faire, quelque chose de facile à retenir, trois mots usuels qu'on essaye d'apprendre à nos enfants. Pardon, merci, s'il te plaît. Et je vous inviterai à prendre un temps maintenant et si vous avez à cœur de dire cela à Dieu, on pourra le faire. Pardon tout d'abord, pardon pour ce que je sais mal dans ma vie, pardon pour ce que je sais faire mal aussi dans ma vie, pardon pour mes péchés, et ce désir dit à Dieu de se détourner du mal. Merci. Merci Jésus-Christ d'être mort pour moi sur la croix. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Et puis s'il te plaît, Seigneur, entre dans ma vie. S'il te plaît, viens par ton Saint-Esprit. Pardon, merci, s'il te plaît. Je vous inviterai juste à fermer les yeux et à se placer devant le Seigneur maintenant, dans la prière. Fermer les yeux, ça permet de réaliser aussi que le Seigneur est là, même si on ne le voit pas, notre Dieu est là. Et si c'est votre désir ce matin, de dire votre foi, peut-être pour la première fois, demandez à Dieu de venir à votre secours, de vous sauver. Alors je vous inviterai simplement, là où vous êtes, vous pouvez, si vous le souhaitez, hein, répéter simplement la prière que je vais faire, et vous l'approprier avec ces trois mots. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Si vous avez à cœur de dire cela au Seigneur, vous pouvez lui dire à voix basse dans votre cœur, à voix haute, et prendre un temps pour réfléchir concrètement à ce que vous lui, à ce pourquoi vous voulez lui demander pardon. Si vous avez ça, vous pouvez aussi dire ces mots. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que je viens de mentionner. Et je reçois ton pardon en Jésus-Christ. Le deuxième mot, c'est merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir pardonné. Merci d'avoir donné ta vie pour moi en mourant sur la croix. Merci parce que tu m'offres le salut gratuitement. Merci pour ton amour, toi mon Dieu. Après avoir dit merci, on va dire s'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur, viens, entre dans ma vie par ton Saint-Esprit. Viens me transformer. Viens prendre toute la place qui t'est due. Nous faisons cette prière au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, après le culte, on aura un temps de partage, de repas. Et si vous avez à cœur d'aller plus loin, peut-être c'est la première fois où vous avez à cœur de discuter aussi peut-être de ce qui a été partagé, ce qui a été reçu, n'hésitez pas à venir me voir ou à discuter avec d'autres qui seront là aussi. Peut-être ceux qui vous ont invités, mais c'est bien de ne pas rester seul Avec sa foi, le Seigneur nous appelle à la vivre en Église, ensemble, avec d'autres croyants, là où nous sommes, là où nous vivons. On va avoir un temps maintenant aussi de prière pour les baptisés. Donc, je vais demander aux baptisés de venir devant. Et puis je vais demander aux personnes désignées, ceux du conseil, et puis Jean Beethoven, le conseil de notre église, et Jean Beethoven de venir. Venez, mettez-vous là devant face à l'église. Venir ici. Mettez-vous bien d'un côté de l'autre. Et le baptême, c'est aussi pour l'Église un temps où on accueille un peu plus solennellement, même si ils font déjà partie de notre Église depuis quelque temps, mais on les accueille plus solennellement comme voilà, des frères et sœurs en Christ. Et donc c'est une occasion où je vais vous demander en tant qu'Église à vous lever simplement maintenant à votre place. Je vais vous poser une question en particulier pour ceux qui font partie de cette Église. J'espère que vous répondrez avec un grand oui. Frères et sœurs, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est le don de Dieu. Par le baptême, le Seigneur ajoute à son Église ceux et celles qui aujourd'hui ont été appelés, qui l'a appelé. Là, c'est la question. Accueillez-vous ces croyants comme des frères et sœurs? Et pourront-ils compter sur vous pour les encourager dans leur vie nouvelle?
Amen.
J'ai pas bien entendu.
Amen.
Amen. Alors, au nom de l'Assemblée, voilà, je vais demander aux frères et sœurs du Conseil qui ont été désignés de prier pour les baptiser l'un après l'autre.
Père Céleste, merci au nom de l'Église du Point du Jour, nous accueillons notre frère Emmanuel au sein de notre église locale. Merci Seigneur, tu le bénis. Nous le bénissons Seigneur, et tu le bénis Seigneur dans sa vie, dans son appel, depuis le jour où il est venu sur terre jusqu'à le jour où tu viendras le reprendre. Nous nous réjouissons Seigneur, tu vois, tu l'as béni Seigneur, tu continues à le bénir, tu le bénis en tant que personne, en tant que ton enfant, c'est notre frère. Tu le bénis en tant que père de famille, tu le bénis en tant que mari, tu le bénis dans sa vie professionnelle également. Nous sommes tous réunis, Seigneur, et c'est une grande joie, Seigneur, qu'il fasse partie de la famille, que toute gloire te revienne et que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Amen.
Oui, Seigneur, quelle joie d'avoir été témoin du baptême de Misaël ce matin. Nous te le confions, nous, toute l'Église, nous le présentons et que ta main se pose sur lui, sur sa vie, vraiment personnellement, Seigneur, que ce jour soit un jour vraiment particulier durant lequel il se souviendra de cet engagement. Seigneur, bénis-le pleinement, fais de lui un artisan de paix, donne-lui de la joie qui déborde, de la joie qui est communicative, de la joie qu'il partage, ce bonheur qu'il partage, que partout où tu l'envoies, il soit connu pour cette joie et cette paix qu'il habite, non pas par ses propres moyens, mais parce que toi, Seigneur, tu as pris la place qui te revient dans sa vie, c'est-à-dire la place tout entière. Seigneur, nous te demandons aussi de le bénir en tant que frère aîné dans cette fratrie. Ne l'alourdis pas de cette lourde responsabilité, mais accompagne-le, Seigneur, pour qu'il puisse malgré tout être ce phare, être celui qui montre le chemin, qu'il puisse aussi être un soutien pour sa maman et un grand frère avec les épaules élargies pour ses jeunes frères et sa jeune sœur. Seigneur, bénis-le pleinement et rends-le fort, plus fort qu'il ne puisse lui-même l'imaginer. Seigneur, nous te le remettons et nous croyons que tu as de beaux projets pour sa vie, des projets de joie et de gloire et non de mal. Amen.
Seigneur Jésus, nous te remercions pour Tatiana. Merci pour cet engagement qu'elle prend aujourd'hui à travers le baptême. Merci pour la foi que tu as fait grandir en elle tout au long de sa vie. Et Seigneur, je te prie et Au nom de l'Église, nous te prions que tu la bénisses, que tu la visites par ton Saint-Esprit, que tu l'équipes, Seigneur, de tes dons encore en ce jour et dans les jours qui viennent. Seigneur, qu'elle puisse marcher avec toi sur tes voies, sur les chemins que tu prépares pour elle. Fais d'elle un témoin de ton évangile, de ton amour partout où elle est, Seigneur, dans son travail, dans sa famille, au quotidien. Que tu renouvelles ses forces, tu lui donnes ta paix, tu lui donnes ta bénédiction et tu lui donnes d'être encouragée et de sentir chaque jour l'amour que tu as pour elle à travers ton Saint-Esprit que tu mets en elle. Viens la visiter et la bénir et nous la bénissons au nom de Jésus en tant qu'Église. Amen.
Amen.
Alléluia, Père éternel, nous te remercions, Seigneur, parce que tu, Seigneur, devant nos yeux, Seigneur, tu établis ton royaume, Père éternel, dans les vies, Seigneur, de nos frères, nos sœurs. Et ensemble, Père éternel, nous te remercions pour la vie de Samuel, Seigneur. Père éternel, vraiment, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Toi seul, tu es bon, Seigneur. Toi seul, tu es béni. Toi seul, tu sauves, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de garder sa vie, Père éternel, comme tu as promis, Seigneur, à chacun de nous, Seigneur, de nous accompagner jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, Père éternel. Tu es, Seigneur, son berger. Tu es, Seigneur, son avocat, son médecin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu le protèges, Père éternel, et en personne, Seigneur, parce que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu es avec lui, Seigneur, partout où il sera, Seigneur. Garde-le, Seigneur, et qu'il puisse, Seigneur, resplendir, Seigneur, comme tu as commandé, Seigneur, à tes disciples. Fais de lui, Seigneur, ton disciple, Père éternel, et qu'il puisse, Père éternel, comme dit ta parole, et témoigner, Seigneur, ton royaume, ton pardon, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, confirmer, Seigneur, sa parole par ta puissance, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen.
Seigneur, merci, merci pour Cécile, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour sa vie, Seigneur. Merci parce que tu l'as arrachée aux ténèbres, Seigneur, pour ton admirable lumière. Et Seigneur, là où il y a les ténèbres, maintenant il y a une lumière qui brille, Seigneur, parce qu'elle va briller partout où elle met ses pieds, Seigneur. Parce qu'elle est une lumière, Seigneur. Et Seigneur, l'Église de Point de Jour se réjouit de la voir au milieu de nous, Seigneur, parce que Seigneur, elle est une bénédiction, Seigneur. Seigneur, je te remets vraiment sa vie entre tes mains, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, je te demande aussi le désir de son cœur. Tu connais toutes choses, Seigneur, et tu connais ses désirs, Seigneur. Et merci de lui donner les désirs de son cœur, Seigneur. Que toutes les portes qui se sont fermées dans sa vie, Seigneur, elles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit un instrument dans tes mains, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci aussi pour sa famille. Nous bénissons sa famille, Seigneur. Et nous remettons sa famille entre tes mains, Seigneur. Oui, merci, Seigneur, parce qu'un jour près de toi veut mieux que mille ailleurs. Seigneur, merci. Merci pour cette vie remplie de toi, Seigneur. Merci pour son avenir, Seigneur, parce que son avenir, il est entre tes mains. Et Seigneur, tu as un bon avenir pour Cécile. Seigneur, parce qu'elle t'a ouvert son cœur. Et Seigneur, comme elle t'a ouvert son cœur, tu vas remplir son cœur de ta parole et que des bonnes choses. Seigneur, je la vois, Seigneur, de ce monde comme une lumière qui brille partout. Seigneur, merci. Merci, je me réjouis de la voir, Seigneur, d'avoir cette petite sœur que j'aime, Seigneur. Et Seigneur, merci, encore merci, Papa, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Seigneur, je remets ta mariée entre tes mains. Qui vient de s'engager par les eaux du baptême. Nous avons entendu, Seigneur, son témoignage. Et maintenant, elle rentre dans cette nouveauté de vie. Seigneur, ma prière pour Tanaël, dans cette nouveauté de vie, dans cette nouvelle vie qui s'offre à elle maintenant. Je te prie, que ni ta parole, ni ton esprit ne s'éloignent de Nathanaël. Que ta parole, Seigneur Jésus, soit vraiment cette lumière qui éclaire ses pas, pour montrer à Nathanaël là où elle doit mettre ses pieds. Que c'est ta parole, vraiment cette lampe qui nous montre le sentier, tout le chemin qu'elle doit parcourir, qu'elle ne marche plus dans les ténèbres. Que ta parole éclaire tout ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle ne doit pas faire, les décisions qu'elle doit prendre, Seigneur Jésus, soit éclairée par ta parole. C'est ma prière pour Nathanaël, Seigneur. Ma prière, Seigneur Jésus, c'est vraiment maintenant qu'on t'aura montré ce chemin, mais je te prie que tu le remplisses, que tu la remplisses de ton Esprit Saint. Ton Esprit pour donner la force maintenant de marcher dans cette lumière. C'est bien de voir la lumière, mais avec nos forces, certaines fois, on ne peut pas y arriver. On tombe des fois, on n'arrive pas. Mais je te prie, Seigneur, de remplir Nathanaël pour toi, qu'elle soit un instrument entre tes mains. Comme toi, le jour de ton baptême, nous avons entendu cette voix dans le ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. » Mais je crois que tu as placé toute ton affection en Nathanaël. Que cette parole soit gravée, Seigneur, dans son cœur, de maintenant et à jamais. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Et je veux vraiment bénir toute sa famille, son avenir, ses amis, le lycée, qu'elle soit une lumière. Je proclame que tu brilles au nom de Jésus. Amen.
Seigneur Jésus, je te remercie pour Wizanaka et merci pour sa foi, malgré son jeune âge, malgré aussi pour son désir, Seigneur, de te servir, malgré son jeune âge. Et Seigneur, je te rends grâce pour cet engagement qu'il a pris aujourd'hui avec toi, ce pas, cette belle chose qui est vraiment le désir de son cœur, Seigneur. Et tu vois comment il avait à cœur, Seigneur, il tenait à se faire baptiser. Alors Seigneur, je te prie en ce jour particulier de le bénir, de le remplir de ton Saint-Esprit à nouveau, qu'il puisse déborder de ta présence, de ton onction, que ton esprit puisse l'aider à s'affermir, à grandir petit à petit dans ta parole, Seigneur, ancrée dans ces écritures que tu as inspirées, que tu l'aides encore à avancer, à cheminer, à s'appuyer sur toi chaque jour de sa vie, Seigneur, qu'il n'y ait rien qui puisse faire obstacle à ta présence dans sa vie, à ce que tu as prévu pour lui, Seigneur. Alors viens l'équiper, viens le façonner, viens l'utiliser, Seigneur, viens faire de belles et grandes choses à travers lui dans sa vie pour les temps qui viennent. Seigneur, merci parce que tu vas faire de belles choses. Et nous voulons, en tant qu'Église, appeler ta bénédiction sur sa vie, demander une visitation particulière de ton Saint-Esprit, que tu viennes l'équiper et fortifier. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, Wizanaka. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir encore? Voilà, le temps passe, mais on a un culte un peu... inhabituel aujourd'hui avec des baptêmes, donc on dépasse un peu l'horaire habituel aussi. On va prendre un temps aussi maintenant autour de cette table. Vous savez, avec le baptême, la Sainte Cène, c'est le deuxième sacrement ou commandement que le Seigneur nous a laissé dans les pratiques qu'on est appelé à faire en tant qu'Église. Mais à la différence du baptême, nous sommes invités à répéter ce repas du Seigneur que d'autres appellent la communion, l'Eucharistie, qu'on appelle la Sainte-Cène. Et ce temps nous permet de nous souvenir, ensemble, en Église, de ce qui est au centre de notre foi, la mort de Jésus-Christ sur une croix, pour nous obtenir le pardon, la réconciliation avec Dieu. Et le pain que nous allons manger tout à l'heure nous rappelle le corps de Jésus-Christ, Dieu fait homme, meurtri dans son corps, pour nous, à la croix, ressuscité, avec un corps, pour démontrer sa victoire sur la mort. Jésus, c'est ce pain de vie qui comble notre faim la plus profonde. Et lorsqu'on va prendre la coupe, le jus de la vigne que nous buvons nous rappelle le sang.